Le micro du soir, Aïchla RFI.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Le micro du soir. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Pâques. Ce soir, je reçois Jonathan Deray, en charge des relations institutionnelles, de l'innovation et du développement au sein du groupe Odyssée Éducation qu'il a cofondé aux côtés de Luc Chatel, l'ancien ministre français de l'Éducation nationale. Et c'est précisément le groupe Odyssée qui a créé en 2019 l'école française internationale de Bucarest en plein centre-ville à deux pas de Piața Mazei. C'est pour cela que nous avons voulu inviter Jonathan Deray. Je précise qu'il y a quelques mois, nous avions reçu Bianca Stinga, la directrice de cette même école, ainsi que le consultant en éducation François-Xavier Gabé. Et j'ajouterai que Jonathan Deray a travaillé près de 10 ans pour le gouvernement français en tant que conseiller puis chef de cabinet dans plusieurs ministères, en particulier au ministère de l'Éducation nationale. Nous en parlerons à la fin de cette discussion. Jonathan Deray, bonsoir.
Bonsoir Laurent Couder.
Merci d'être avec nous. Alors quand il s'agit d'éducation, moi je suis toujours ravi d'avoir des invités. Comme je vous l'ai dit en amont de cet entretien, au micro du soir, on parle surtout des gens, moins des structures, mais quand il s'agit d'éducation, on fait une exception. Donc dites-nous d'abord, quelles sont les raisons qui vous ont conduit à créer l'École française internationale ?
Ah, c'est une bonne question parce que l'EFI Bucarest a été une des premières écoles que le groupe Odyssée a créée en 2019. Le groupe Odyssée, c'est un jeune groupe qui s'est créé en fait en deux temps, 2017 et 2019. Et donc, on a un peu commencé notre odyssée, notre aventure à Bucarest. Les raisons, elles sont multiples. D'une part, parce que évidemment, il y a un lien spécial entre la Roumanie et la France. C'est pas dans cette belle maison que je vais expliquer le lien sur la francophonie, sur ces liens culturels très forts. Les liens éducatifs, évidemment, aussi, entre les deux pays. Et puis, il y avait aussi une demande de famille roumaine, expatriée, qui attendait qu'il y ait un établissement scolaire dans le centre de la ville. Le développement de Bucarest est ce qu'il est, et c'est vrai que les temps de transport sont importants. Donc, on a saisi cette opportunité, en lien avec l'ambassade de France, d'ailleurs. Mais c'était une histoire à la fois entrepreneuriale, et pour moi aussi une histoire un peu affective. Je trouve que mon épouse est roumaine, et j'ai un lien spécial personnellement avec ce pays. Donc c'était la conjugaison de ces deux opportunités et passions.
D'accord. Alors, nous allons bien évidemment parler de l'EFI Bucarest. En préparant cet entretien, Bianca Stinga, donc sa directrice, me parlait d'évolution à venir dans votre enseignement en classe de CM1 et CM2. Elle évoquait en particulier une parité horaire français-anglais. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Ah oui, parce que ça mérite un peu d'explication, je pense. En deux mots, le groupe Odyssée, c'est un groupe français d'éducation internationale. Notre métier, c'est de faire des écoles françaises dans le monde.
Homologuées par le ministère de l'Éducation.
Homologuées par le ministère de l'Éducation nationale français, absolument. Et on a une conviction éducative dans notre groupe, c'est qu'on doit installer les enfants dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la maternelle, dans un enseignement plurilingue. L'anglais est évidemment une langue absolument fondamentale pour le développement personnel, demain professionnel des jeunes enfants. Et il ne faut pas avoir une position un petit peu timide vis-à-vis de l'anglais. Au contraire, il faut l'intégrer dans une politique éducative plurilingue. Et donc, notre politique dans nos établissements, c'est d'installer l'anglais aux côtés du français, qui est notre langue première, évidemment, naturellement, en tant qu'école française, et aux côtés de la langue locale, ici le roumain, de manière très résolue. Ça représente aujourd'hui, dans notre école, l'anglais, en fin de primaire, ça représente entre un quart et 30% du temps d'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'on apprend que la langue anglaise. Ça veut dire que dans une école française, on peut apprendre aussi les programmes français en anglais. Donc, c'est un travail pédagogique assez élaboré.
Non, moitié en français, moitié en anglais.
Pas exactement. Je vais y venir. Mais l'idée, c'est que les langues, le bain de langue, si je puis dire, cette politique trilingue pour les plus jeunes enfants, c'est un travail pédagogique élaboré qui met les enfants dans une sorte d'aisance linguistique. Hein. Ils sont habitués dès le plus jeune âge à entendre le français, l'anglais, le roumain, et à apprendre dans ces trois langues, des mathématiques, des sciences, évidemment de l'histoire ou autre. Et on va aller un peu plus loin l'année prochaine, parce que on voit que le niveau de nos élèves le permet, en français en particulier, mais aussi parce que on a expérimenté ça dans plein de pays. À partir de l'année prochaine, en CM1 et en CM2, et c'est une annonce que je vous fais ici d'ailleurs, l'enseignement en anglais va être augmenté encore un petit peu pour aller sur ce qu'on appelle un système de half-half, c'est-à-dire un jour en français, un jour en anglais et en roumain, en fait, et dans les langues autres que le français.
Donc le français va légèrement prédominer toujours.
Légèrement dominer toujours. On est dans une école française et puis il y a des objectifs linguistiques, académiques à atteindre en français pour préparer nos élèves à l'entrée au secondaire s'ils souhaitent continuer dans une école française en particulier. Mais notre mission...
Pour le coup, si c'est le lycée français, ce sera entièrement en français.
Principalement en français, même si le lycée à Nanoï est aussi une section internationale, où il y a un petit peu d'anglais renforcé. Mais ensuite, l'essentiel des études en secondaire, quand on continue dans un lycée français, c'est en français, et on prépare les examens français. Donc nous, notre mission, c'est de préparer de la meilleure des manières des élèves qui parfois arrivent allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas le français, et notamment pas à la maison. Donc non seulement de les accueillir, de leur enseigner le français, l'anglais aussi, et de les faire réussir. C'est ça notre job. Notre job à nous, c'est pas simplement de donner des cours, c'est de s'adapter au profil des élèves, parfois au profil des familles, à leur parcours, et de les amener aussi vers une situation où, en fin de primaire, ils ont la liberté, le choix d'aller dans l'enseignement français à l'étranger, à Nanoï en l'occurrence, au lycée à Nanoï, c'est une solution qu'on pousse, qu'on valorise, mais s'ils le souhaitent, de continuer dans une école roumaine, ou une école internationale.
Ça vous permet également d'élargir votre offre et de séduire d'autres
c'est
type de parents, j'allais
absolument
dire.
Absolument, hein? Je pense que c'est très important ce que vous dites. Parce que, en fait, la France, le français, c'est un effort de conviction de tous les jours. On doit aussi convaincre des gens qui s'interrogent sur leur capacité à faire réussir leur enfant dans une école française, sur des choix qu'ils n'ont pas encore fait pour le secondaire. On doit être capable de dire aux familles, mais venez dans le système français, venez dans une école française comme la nôtre, vous allez construire votre coalition. Et nous, on vous amène à réussir.
Transition toute faite, donc, concernant cet accord que vous avez signé l'an passé, c'était l'année dernière, je crois, avec le lycée français Anna de Noailles et de Bucarest, dont nous saluons le proviseur Simon Valette, qui fut également l'un des invités du micro du soir. Alors, où en êtes-vous vis-à-vis de ce projet ?
En fait, cet accord, c'est un peu l'illustration que ici en Roumanie, comme c'est le cas dans d'autres pays, mais c'était un petit peu nouveau ici, on travaille aussi en équipe. C'est un peu, vous me pardonnerez cet anglicisme, c'est un peu la Team France de l'éducation. Et oui, cet accord, il reflétait ça, c'est-à-dire que nos élèves en fin de CM2, parce que nous n'avons pas de secondaire pour l'instant, ont une place assuré au lycée à Nanoï. Comme je vous le disais, les familles ont la liberté d'aller où elles veulent à la fin du primaire, et la possibilité aussi bien de rejoindre un système ou un autre, mais ils ont leur place garantie au lycée à Nanoï.
Excusez-moi, je vous interromps un moment. Est-ce que vous avez un secondaire ailleurs au sein du groupe ?
Oui, en fait, le groupe Odyssée, c'est 13 établissements dans 12 pays, en Europe, en Asie du Sud-Est, et en Afrique du Nord.
Donc vous y avez pensé, j'imagine.
Bien sûr, ça a été sur la table. Et peut-être qu'un jour dans l'avenir, ce sera le cas, mais le développement des écoles se fait aussi à un niveau qui parfois prend du temps. On a eu un très bon développement sur les premières années, Mais ce qu'il faut, c'est que l'offre s'enracine, si je puis dire, et que on évalue bien dans l'avenir s'il y a besoin d'avoir deux secondaires à Bucarest. C'est l'avenir qui répondra à cette question.
En tout cas, l'accord est effectif.
L'accord est effectif, il fonctionne encore cette année, évidemment. Tout ça avec, je dirais, l'appui positif et bienveillant de l'ambassade, avec qui on collabore toujours. On se retrouvera, comme toujours, assez régulièrement à l'ambassade pour discuter de différents sujets de coopération. Je crois que c'est un très bon symbole de cette continuité, de cette offre éducative de la France, qui est un élément d'excellence académique et culturel ici en Roumanie.
Mais je suppose que vous avez également des liens, peut-être moins formels, mais avec d'autres établissements secondaires dont vous... vous me parliez.
Bien sûr. Exactement. Enfin, c'est
moins formalisé.
Naturel.
Comment
c'est
vous
moins
diriez,
formalisé. Voilà. C'est moins formalisé. On porte d'abord un dossard, si je puis dire. Mais oui, bien sûr, il y a certaines de nos familles qui privilégient telle ou telle situation. On a aussi beaucoup de familles qui parfois repartent à l'étranger et ont des orientations scolaires pour leurs enfants qui peuvent varier. C'est un des atouts du réseau d'enseignement français à l'étranger. C'est d'être un réseau quand même très reconnu, avec des accréditations, ce qu'on appelle l'homologation d'État, qui garantit quand même des niveaux, l'atteinte de niveaux académiques pour nos élèves, qui constitue un passeport aussi pour le monde.
Rappelez-moi, vous avez une majorité d'élèves roumains.
On a une petite majorité d'élèves roumains, on a environ 30% d'élèves français, on a aussi pas mal d'élèves qui ne sont ni roumains ni français. Ça, c'est aussi une particularité dans notre groupe. On a beaucoup d'élèves qui sont ni des locaux, si je puis dire, ni des Français expatriés ou des couples mixtes, comme il peut y avoir. Ça, c'est aussi une richesse. Et dans une école trilingue, très ouverte sur le monde, c'est le fait d'avoir ce bouillon de culture, si je puis dire, c'est un enrichissement pour les élèves.
Alors, le lycée français, vous me direz si je me trompe, mais le lycée français de Séville est depuis cette année membre du groupe Odyssée Éducation, qui réunit, comme vous le disiez, désormais 13 établissements implantés dans 12 pays. Quel est votre ambition. Parlez-nous peut-être déjà de ce lycée français de Séville et puis l'ambition à terme.
C'est en effet la dernière arrivée dans notre réseau. Notre réseau, il continue de se développer. On a un petit peu plus de 5200 élèves aujourd'hui, dont environ un tiers sont en secondaire et deux tiers en primaire. Je vous disais qu'on était présent sur trois continents et Odyssée, c'est en fait une aventure éducative avant toute chose. C'est un projet éducatif qu'on avait travaillé avec Luc Châtel déjà il y a de nombreuses années après qu'il ait quitté ses fonctions au ministère. C'est un projet, je dirais, qui s'est construit en lien très étroit avec la volonté de la France de continuer à déployer une politique francophone et une politique éducative ambitieuse. Donc nous, on s'est complètement inscrit dans ce partenariat, ce partenariat que nous avons d'ailleurs avec l'AEFE, qui est l'agence qui coordonne les 600 lycées et 400 000 élèves dans le monde. Et c'était une aventure dès le début entrepreneuriale. Ça a quelque chose de fondamentalement entrepreneurial, de créer des structures de zéro et de leur permettre de se développer de la bonne manière sans contribution publique, financière publique, parce que 99,5% de nos recettes à l'échelle du groupe sont les recettes qui proviennent des familles. Donc on doit être à la fois performant académiquement, responsable institutionnellement, évidemment la sécurité,
avec le ministère de l'éducation, enfin excusez-moi, l'éducation française, il est un lien d'homologation Et c'est
comme ça que ça marche. Il y a un lien d'homologation, de validation, si je puis dire, des programmes enseignés, de l'organisation de l'établissement. Il y a un lien avec l'ambassade de France, qui est très important, un lien avec l'AEFE dont je vous parlais, donc l'agence. Donc oui, on a un lien très étroit, à la fois dans notre dynamique de développement, mais aussi dans, évidemment, les enseignements qu'on propose et le cadre d'enseignement qu'on propose. Tout ça est suivi, scruté, et avec un haut niveau d'ambition de la France. Et c'est donc un petit peu cette approche qui a été la nôtre quand on a développé le groupe Odyssée, c'est de dire on va développer un nouvel acteur capable demain de contribuer à ce développement du réseau d'enseignement français à l'étranger.
Jonathan Doré, si on vous dit que l'éducation, c'est comme la santé, cela devrait être gratuit pour tout le monde, que répondez-vous?
C'est une question qui, je pense, intéresse tout le monde. Évidemment, l'éducation, la santé, c'est des besoins fondamentaux. Mais permettez-moi peut-être de vous partager deux, trois choses. D'abord, je connais pas de service qui soit gratuit, d'une manière ou d'une autre. Quand on organise quelque chose, a fortiori de qualité, comme on a l'ambition sur l'éducation ou sur la santé, ben, il y a toujours un coût. Hein. Tout a toujours un coût. Il faut des gens formés, il faut des structures, il faut des structures, j'entends des campus, des hôpitaux, tout ce que vous voulez bien.
Mais c'est pas vous que je vais dire qu'on fait la distinction quand même entre service public et
absolument.
Service privé.
Mais d'abord, rien n'est gratuit. Donc tout a un coût, et à un moment ou à un autre, les familles, les contribuables, payent pour ce coût. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que je pense que dans l'éducation, comme dans la santé, à vrai dire, il y a un principe qui doit toujours être gardé en tête. C'est celui de la liberté. La liberté des familles de dire « Mon pays propose telle offre éducative, tel type d'école autour de chez moi, plus loin. Mais c'est aussi ma responsabilité pour mon enfant. » De choisir tel système, telle offre, et
si en l'occurrence, j'en ai les possibilités.
Si j'en ai les moyens, de faire cet effort. Et on en a conscience, comme je vous disais, nos recettes viennent exclusivement des contributions des familles. On sait à quel point c'est un sujet sensible, et on fait très attention aux évolutions des tarifs. On fait très attention à surtout rester à un niveau soutenable pour les familles. Mais le coût de l'éducation est élevé. Le coût des enseignants, de campus de qualité, sécurisé, inspirant, où les enfants peuvent bien se développer, tout ça a un coût. Donc, je pense que ce principe de tout a un coût plus la liberté, ça nous donne une place pour exister, légitime, me semble-t-il. On rencontre d'ailleurs une demande, mais c'est très bien que on cohabite évidemment avec une offre publique d'enseignement. On n'a pas vocation à remplacer l'offre publique d'enseignement ici en Roumanie ou nulle part ailleurs d'ailleurs.
Une autre question qui me vient, je crois qu'elle va vous intéresser, c'est celle de l'intelligence artificielle. Et je me pose moi-même souvent la question, comment instruire aujourd'hui quand... Alors, je ne sais pas si on dit désormais 7 ou 16 intelligences artificielles. Ouais. Comment elles vont évoluer dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir? Quelle ligne de conduite à mettre en place?
Bien sûr. C'est probablement l'un des plus grands défis auxquels nos sociétés, donc les éducateurs, mais nos sociétés ont à faire face. D'abord, l'intelligence artificielle, le mot est ce qu'il est, voilà, maintenant il est connu comme ça. Je pense que derrière l'intelligence artificielle, il y a de l'intelligence humaine, première chose. C'est la première chose. Et on l'oublie trop. On a l'impression que tout ça vient d'une sorte de grande machine qui maintenant
s'impose.
Galope toute seule. Non, pas du tout. Derrière ça, il y a de l'intelligence humaine. Et cette intelligence humaine, elle n'est pas récente, elle est ancienne. L'intelligence artificielle, les experts vous expliqueraient que ça a commencé depuis longtemps, en fait. Mais on est face à une accélération, à une transformation, si je puis dire, de l'impact et des capacités qu'offre cette IA ou ces IA. Je suis complètement d'accord avec vous. En réalité, il y a un paysage qui est très varié. Tout le monde connaît... deux, trois applications type ChatGPT, qui dans l'éducation ont un impact en ce moment incroyable, mais la réalité technologique, culturelle, des usages, elle est très, 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 très variée. Alors, premièrement, il y a une chose qui, pour moi, est essentielle. Et là, évidemment, on s'appuie sur les travaux en sciences cognitives, sur l'expérience des enseignants et sur les retours d'expérience qu'on a aussi, qui nous viennent de l'enseignement supérieur, par exemple. C'est très important d'être conscient de savoir comment évoluent nos élèves. Bah, la première chose, c'est que l'IA, c'est d'abord un appel immense à maîtriser avant toute chose pour chacun de nos élèves les fondamentaux du savoir et de l'apprentissage. Notre première mission, on s'en rend bien compte, c'est pas de mettre des enfants face à des tablettes, des téléphones ou des écrans.
D'ailleurs, ils en ont partout. Les pays nordiques en sont revenus.
Certains en reviennent. Certains, ouais. Le mouvement n'est pas toujours très clair. C'est mitigé, mais je pense que tout, c'est comme toujours, c'est tout un peu dans la mesure et l'adaptation de ce qu'on fait au contexte. Mais notre première mission, c'est ça le premier truc, c'est que ça nous rappelle que notre première mission, c'est d'apprendre aux enfants à écrire, à réfléchir,
à distinguer,
à s'informer de la bonne manière. Vous êtes ici dans un média qui défend aussi et un groupe de médias qui défend cette vision de l'éducation aux médias, d'être capable d'avoir un esprit critique. C'est une des forces de l'enseignement français à l'étranger. On est un des rares systèmes d'éducation qui met vraiment tout en haut de ses priorités le développement de l'esprit critique et de la culture générale. Pourquoi ? Ben justement parce que dans un monde où l'information est maintenant non pas accessible, mais elle est partout. Le citoyen, le professionnel, la personne, les personnes que sont nos élèves doivent pouvoir évoluer là-dedans avec leur filtre, avec leur capacité à distinguer la fake news de l'information vérifiée, de l'information universitaire, académique, de travailler, d'être capable de se forger une opinion de la bonne manière sans être influencé de manière trop manipulée. Et nous avons, avant toute chose, ce rappel de la mission fondamentale. Et donc nos enseignants travaillent là-dessus. Et dans l'éducation, d'une manière générale, je pense que c'est la première chose, c'est revenir sur cette maîtrise fondamentale, évidemment dès le plus jeune âge, mais ensuite tout au long de la scolarité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que faut aussi saisir les opportunités là où elles sont. C'est-à-dire que, comme tous les outils, en fait, ils peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés, ils peuvent être aussi une formidable opportunité s'ils sont maîtrisés. Donc, c'est pas simplement la maîtrise de l'information, de l'esprit critique, c'est aussi la maîtrise, d'une part, de l'usage. Aujourd'hui, c'est le plus facile pour les jeunes. Alors, évidemment, on sait tous que aujourd'hui, vous avez une majorité d'élèves qui utilisent les moteurs de recherche divers et variés et les différentes IA applicatives qui leur permettent d'accélérer sur certaines choses.
Travail,
mais en même temps, les élèves savent très bien aussi qu'une des premières compétences des profs, c'est de savoir justement distinguer celui qui a fait son travail seul, celui qui s'est peut-être aidé de l'IA, mais qui a réussi à en tirer quelque chose et à créer un contenu original, et celui qui a été, pardon, mais un peu fainéant et qui est passé là-dessus. Donc, je pense que là, on est en train de faire un chemin très rapide, et les enseignants savent distinguer ça. Mais, outre les usages, il y a aussi la maîtrise de la technologie. Et ça m'amène peut-être à vous dire que je pense que le 21e siècle, c'est un siècle qui est évidemment profondément technologique, profondément tourné vers les enjeux de la science. Et ce n'est pas simplement les enjeux globaux fondamentaux comme l'écologie qui sont derrière ça et la préservation de la planète. Mais c'est le fait de prendre en compte que c'est la science, ce sont les technologies qui seront au cœur de la vie de nos jeunes élèves qui aujourd'hui, en 2025, ont entre 6, 7, 8, 9 ans, mais qui seront des actifs de 2050, 2060, parfois même 2070 pour certains. Donc, notre job à nous, c'est de les préparer et c'est aussi de leur transmettre les fondamentaux de la maîtrise technologique. Le coding, au-delà du coding et de la maîtrise de la technologie informatique, c'est la compréhension des grands enjeux scientifiques, d'une manière générale. Donc, cette IA, c'est un grand rappel à l'ordre et c'est aussi une opportunité qu'on est en train de saisir tous. Là, je parle collectivement, mais on est dans un processus, donc il y a des inquiétudes. Notre job, c'est de maîtriser le chemin qu'on emprunte, de ne pas amener nos élèves sur des modèles qui seront pas bénéfiques pour eux ou dont on n'est pas sûr qu'ils soient bénéfiques pour eux. Donc, nous, on est concentrés sur notre mission première et on n'a aucun doute que les choses vont beaucoup évoluer, la régulation va beaucoup évoluer. Je pense que on a tous conscience qu'il y a besoin que l'Europe, en particulier les autorités nationales, aillent encore plus loin demain dans la régulation, parce que on pourrait en parler, mais l'éducation est aussi confrontée à un enjeu du développement des réseaux sociaux et d'une approche générale des élèves à leur smartphone.
Ça, c'est une conception européenne, mais c'est vrai qu'il n'est pas partagé. Malheureusement,
oui,
on pourrait le dire.
Je pense que c'est une valeur profonde et fondamentale de l'Union européenne et de l'Europe d'une manière générale, et qu'on doit être fier de ça et qu'on doit le pousser, justement, parce que c'est le meilleur moyen de rendre service à notre jeune génération. C'est une bonne manière aussi d'être capable de, dans une démocratie, dans un état de droit, dans un état développé, d'avoir des balises sur ces sujets-là.
Que ces nouvelles technologies servent l'humain et que ce ne soit pas l'inverse. On a parfois la sensation
métier,
que...
Notre métier avant tout, c'est l'humain, dans l'éducation.
Bien de le rappeler. Jonathan Deray, j'aurais une dernière question qui s'adresse plutôt à l'homme, à son expérience. Vous avez travaillé, comme je disais en introduction, pour le gouvernement français pendant plusieurs années. Est-ce que cela vous manque parfois?
Non. La réponse est non. Par contre, j'ai eu le privilège, la chance, très jeune dans ma carrière, d'avoir eu la confiance de ministres qui m'ont demandé de les accompagner sur certains sujets, et même parfois de m'occuper de leur cabinet, c'est-à-dire de leurs conseillers les plus proches, qui les aident à prendre les décisions, justement.
Et, très jeune.
Oui, j'ai eu la chance de commencer à 23 ans. Donc, oui, c'était une formidable opportunité que j'ai saisie. On n'est jamais préparé à ça. La première chose, c'est qu'on apprend en faisant. Et on apprend aussi en comprenant son écosystème. Ça a été, je dirais, la chance d'une vie. C'était aussi beaucoup de travail. C'était une quantité de travail, je dirais, absolument fondamentale, continue. C'était H24, si je puis dire.
C'est pour ça que ça dure
pendant 9 ans. Donc, c'est pour ça que généralement ça dure un temps. On a besoin après de faire autre chose. Cette expérience au service de mon pays, hein, la France, au service de différents gouvernements et de différentes réformes qui ont été menées, j'ai souhaité à un moment justement complètement changer de parcours, et tout en restant, parce que c'est un fil rouge dans ma vie et dans ma carrière, tout en restant un promoteur de la France, de la francophonie, un passionné d'éducation, j'étais passé par le ministère de l'éducation notamment, j'ai décidé de m'engager différemment. En fait, ma vie à moi, c'est une vie d'engagement. J'ai commencé très jeune, j'ai eu cette chance, cet honneur, d'accompagner trois ministres différents et ensuite de porter toujours cet engagement différemment. Et je crois que dans une vie, dans une carrière, c'est bien d'avoir des phases, des étapes un peu longues, un peu marquées, dans lesquelles on va au bout des choses, on vit une expérience, et après, il est bon de passer, par exemple.
Ça vous a pas donné envie de continuer dans la politique ?
D'abord, faut jamais dire jamais dans une vie, parce que j'aime pas ça. Mmh. C'est même si c'est pas le plan du tout. je rassure ma femme parce qu'on sait jamais si elle se dit il va repartir. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout le plan. Mais c'est un engagement. Travailler en politique, c'est-à-dire à ce niveau-là, aux côtés d'hommes politiques de premier plan, c'est un engagement fort. On le fait jamais par hasard. Ça vient évidemment de conviction, ça vient d'une envie d'être acteur, si je puis dire. Mais vous voyez, je n'étais pas fonctionnaire, je l'ai fait sans être un haut fonctionnaire français. Et c'était naturel pour moi de faire autre chose. Et je crois beaucoup, en plus, aux passerelles publiques-privées, à condition que ce soit dans des principes et des règles qui ne sont pas celles, comment dirais-je, de profiter de son passage dans un cabinet ministériel pour aller dans le privé. Moi, je crois plutôt, c'est ce que j'ai expérimenté pour moi, que c'est une chance qu'on doit mettre à profit, par exemple, en créant des entreprises.
Jonathan Deray, merci infiniment d'avoir été avec nous et bonne continuation pour l'École française internationale à Bucarest et ailleurs.
Merci à vous, merci beaucoup pour votre invitation.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un excellent week-end, week-end placoute. Au revoir.
Le micro du soir, AHLA RFI.